l'Italie au Parc des Princes. C'est 40 ans que la France n'avait pas battu l'Italie. Moi, j'étais Paris Saint-Germain à l'époque. On gagne 2-0. Pour moi, ça a été un moment important. Moi, qui en plus, qui suis d'origine italienne, du côté de Nice, ils sont pro-italiens beaucoup. Hein. Et donc, ça me faisait plaisir, ce match. En plus, ça a été un super match. 3 mois après, ils ont été champions du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Légendes. S'il débute à Ajaccio, c'est à Nice et au PSG que notre invité fait l'essentiel de sa longue et belle carrière. Exceptionnel sur sa ligne, qualifié de muraille par les supporters, surdoué au pénalty, sérieux et appliqué, aussi discret hors du terrain qu'il était explosif dans sa surface, ce gardien à la longévité légendaire a remporté 2 Coupes de France, dont l'une en stoppant 4 pénaltys en demi-finale, 1 en finale, vêtu de son cultissime maillot rayé gris et rouge barré du logo RTL. Cette légende qui compte 21 sélections en équipe de France à une époque où la concurrence entre gardiens était féroce, cette idole du Parc des Princes et du Stade du Ray, c'est...
C'est Dominique Baratelli, la légende... de Nice et de Paris. On a vraiment, vraiment une grande chance, Dominique, de vous compter parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installé et que vous êtes mis tranquillement dans un fauteuil confortable. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'allumer le feu, mais en tout cas, si vous êtes près d'une piscine, vous pouvez déjà commander les boissons. L'objectif, c'est d'être avec nous quelques instants pour revenir sur votre glorieuse carrière.
Bon, je suis très bien installé, ça va. Je vous écoute.
Parfait. Alors, la tradition, c'est qu'on se tutoie entre nous. Est-ce que c'est possible ?
Ah, ça ne me gêne pas du tout, non.
Parfait. Merci, Dominique. Alors, pour commencer, d'où est venue la passion du football, premièrement ? Et deuxièmement, est-ce que ça, c'était toujours pour toi naturel d'être gardien de but ?
Alors, la première question, c'est que j'ai toujours joué au football, même quand j'étais tout gosse. J'étais un peu en banlieue de Nice et on avait des terrains et on se rencontrait avec des camarades. On n'arrêtait pas pendant les vacances, les jeudis, parce qu'à l'époque c'était les jeudis et les week-ends. Non, j'arrêtais pas de jouer au football, ça c'est vrai. Et c'était une grande passion pour moi. Alors, pour la question du gardien de but, non, ça m'est venu très tard. Au début, j'ai toujours joué dans le champ jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'est à 17 ans que j'ai fait un changement de poste. C'est directement de milieu gauche à gardien de but.
Pourquoi ce changement de poste, Dominique ?
D'abord parce que c'est un poste qui me plaisait à l'origine, même si je n'ai pas joué au début. Et puis, un jour, bon, le gardien s'est blessé, c'est les coups classiques. Je l'ai remplacé, et vraiment, ça m'a plu, et je n'ai pas lâché le poste. C'était à cette époque-là, c'était en junior première année, donc vous avez 16-17 ans. Et donc, finalement, comme j'ai fait une bonne saison à gardien de but chez les jeunes, on m'a surclassé senior, et on m'a fait jouer directement avec des seniors qui jouait à cette époque-là en PHB. Alors, c'était dans la banlieue ouest de Nice, c'était au stade niçois. J'ai démarré comme ça.
Et donc, quand tu commences à jouer à ce niveau un peu plus élevé, tu as quoi, un an, c'est ça ? Un an d'entraînement, entre guillemets, de gardien de but ?
Absolument. Oui, et encore, même pas d'entraînement, parce qu'à cette époque-là, c'était un entraînement par semaine, il n'y avait pas de spécifique gardien. Donc, je jouais un peu dans les buts sans me préparer, quoi. Et on apprenait sur le terrain, quoi, pendant les matchs.
Un entraînement plutôt à la dure, alors, Dominique, dans ce contexte. Quelles étaient les compétences du jeune Dominique qui expliquait cette capacité à jouer dans les buts ?
D'abord, j'étais très vif. Je suis les pieds, moi. Donc, j'étais très bon dans les sorties, dans les pieds. J'étais bon sur ma ligne. Mais c'est vrai que quand j'ai joué avec les seniors, alors que j'étais junior, j'avais quelques difficultés à me faire respecter dans mes 6 mètres. Et c'est vrai que les équipes adverses le savaient et en profitaient un peu. Donc, ça a été une école à la dure et finalement, ça m'a permis de progresser.
Est-ce que tu as un plan de carrière à ce moment-là ? Est-ce que tu penses que tu vas être pro ou tu continues à jouer et voir où tes capacités et où le club va te porter. Est-ce que c'est vraiment défini dans ta tête?
Ah non, pas du tout. Moi, d'ailleurs, j'étais au lycée et j'étais en première à cette époque-là. Et donc, je ne pensais pas du tout faire carrière dans le football. Et puis, le premier déclic, ça a été le Cavigal qui est venu me chercher au stade des Soies où je jouais avec les seniors pour me faire jouer avec les Junior Critérium, c'est-à-dire l'équipe première du Cavigal. C'était une équipe qui jouait sur le plan régional. Et c'est comme ça que j'ai démarré une deuxième partie de ma vie au football. J'ai joué à cette époque-là, il y avait Jacques Raymond et Jean-Paul Rossani dans l'équipe.
Et alors, question un peu stupide, est-ce que tu penses que tu aurais percé dans le football si tu n'avais pas changé de position en position de gardien de but?
Ah, si je n'avais pas changé au poste de gardien de but, non, je n'aurais jamais été un joueur du champ. Hein. Jamais j'aurais joué à un haut niveau en étant un joueur du champ. Bon, c'est la spécificité gardien de but qui m'a permis de d'éclater au plus haut niveau.
Est-ce que, à cette époque, quand tu es jeune, tu as déjà un surnom dans l'équipe, comme tu es un des plus jeunes et que tu es. Par exemple, Michel, qui jouait au foot avec moi, avait le surnom de Monsieur Zéro Ballon, tellement il touchait zéro ballon. Est-ce que
j'étais spécialiste du jeu sans ballon, hein. Je tiens à préciser.
Il ne faisait pas de faute, c'est très bien, il ne faisait pas de faute.
Exactement.
Moi, j'ai joué, non, pas du tout, je n'avais pas de petit nom. Non. On était une bande de copains, qu'on avait tous le même âge, on avait tous 17 ans. On jouait en junior, on faisait un superbe championnat régional. Et puis le Cavigal était quand même connu comme un vivier de joueurs, de futurs joueurs professionnels. Donc j'étais content de jouer à ce niveau-là. Et jamais je ne pensais que j'aurais pu faire carrière.
Donc à ce moment-là, tu n'es pas considéré comme une petite star au niveau local. Personne ne se dit « Ah, c'est le petit Baratelli, c'est un petit dieu au poste de gardien. » Tu n'as pas une petite gloire qui commence à naître?
Non, pas du tout. Il y avait Jean-Paul Rostani à l'époque qui était un peu le meneur, la star de l'équipe. Il jouait en équipe de France junior. Moi, je n'ai jamais joué en équipe de France junior. Donc, c'était lui pour regarder, qu'on voyait.
Quelle était alors la position de tes parents sur ton activité footballistique?
Ils étaient fiers que je joue au football parce que mon père était un mordu de football. Il avait joué au rugby, mais il adorait le football. Enfin, il m'emmenait voir le GC Nice dans les années à l'époque de Durenberg, Barou et compagnie. Donc, j'allais voir les matchs. Il était vraiment mordu de le GC Nice. Donc, tant que j'allais au lycée, que je suivais une filière normale, où ça commençait à coïncider, c'est l'année où j'ai raté mon bac. À l'époque, c'était le bac Mathelem. Hein, il y avait les trois catégories, Mathelem, Philo et Sciences Expérimentales, et je l'ai raté. Donc j'ai redoublé. Et là, ça commençait à coincer. Et finalement, j'ai passé mon bac Sciences Expérimentales l'année suivante, et je l'ai eu. Et cette année-là, j'ai le lycée Ajaccio qui m'a contacté pour que j'aille faire un essai avec Ajaccio. Et je venais de monter en première division.
Et si tu n'avais pas eu cette opportunité de partir à Ajaccio, quel métier tu aurais dû faire ou aurais-tu voulu faire?
Écoute, je n'avais pas encore d'ambition personnelle là-dessus. J'avais mon père qui avait une entreprise. Je pense qu'il aurait voulu que je prenne la suite. C'est mon frère qui a pris la suite dans l'entreprise. Mais au départ, j'avais aucune vision d'avenir.
Alors, juste pour nos auditeurs, je rappelle que le bac à ton époque, c'était autrement plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas un bac qu'on donnait juste en mettant son nom sur la copie.
C'était en 67, hein, juste avant les événements de 68. C'est-à-dire que cette année-là, en 68, ils l'ont donné à tout le monde.
Oui, effectivement.
Mais en 67, il y avait un pourcentage assez restreint. Alors moi, j'avais pris le bac Mathelem la première année. C'était le plus dur. Finalement, je me suis ramassé. Donc l'année après, j'ai passé le bac sciences expérimentales et là, je me suis à l'année. Et il a fallu quand même que je bosse.
Mais alors, est-ce que tu t'es fait un peu tirer les oreilles par tes parents parce que tu avais raté ton bac? Est-ce qu'ils t'ont dit, tu vois, c'est ton foot, c'était pas une bonne idée? Ou est-ce qu'il y a eu quand même un peu plus de patience et de bienveillance?
Non, ils ont, c'était pas à cause de mon foot. On m'a jamais reproché ça. Mais c'est parce que c'est vrai que je travaillais moins bien que j'avais travaillé jusqu'à présent. Bon, j'ai eu des études en banque, hein. J'ai eu des périodes où j'étais très bien et des périodes où j'étais moins bien. J'ai jamais été régulier en haut de tableau.
Alors Dominique, tu donnes l'idée de quelqu'un de, pendant ta carrière, de très sérieux, très concentré. Comment est-ce que tu étais adolescent? L'année 67, c'est presque 69, c'est presque l'année Summer of Love, c'est superbe, musique incroyable, tu disais toi-même juste avant mai 68. Donc comment oui, t'étais ado?
J'allais en boîte, je sortais, j'aimais bien vivre. Le problème, c'est que j'allais en boîte à 5 heures, vous savez, il y avait à 3 heures plutôt. Parce qu'on avait la nuit, on ne pouvait pas sortir, donc il y avait des boîtes qui étaient ouvertes pour les jeunes de mon âge, des ados, à 15 heures. Alors j'allais à bar, on allait avec des copains, on faisait la fête. Et j'ai été relativement sérieux.
Tu as cette opportunité de rejoindre Ajaccio avec le bachot, comme vous disiez à l'époque, en
oui,
poche.
Oui, je veux dire. Oui. Je suis allé en Corse avec mon bachot. J'ai eu mon bac en fin juin. Et début juillet, je partais à Ajaccio. Ça a été une circonstance ordinaire, parce que ça s'est fait sur un rendez-vous, un dirigeant du Cavigal a rencontré Alberto Muro à l'aéroport. Et Alberto Muro lui a dit, je cherche deux gardiens de but, parce que mon gardien de but s'en va. Et il me faut un gardien de but titulaire et un gardien de but remplaçant. Et le dirigeant du Cavigal lui a dit, bah, écoute, je suis Fabre. Et il lui a dit, moi j'ai un bon gardien junior, j'ai un bon gardien qui est senior première année chez nous et que tu devrais essayer. Et c'est comme ça que j'ai fait un essai donc, avec la FIA Ajaccio. Il y avait donc Charlie Marchetti comme le titulaire, moi qui étais comme le remplaçant, et tous les deux, on a fait un essai à Marseille contre l'équipe où il y avait Schiavo, Joseph. Et moi, je sortais de mon sport départemental et je me suis retrouvé au Vélodrome face à ces monstres. Et ça s'est bien passé. Donc la FIA Ajaccio m'a dit, ben, on vous prend pour l'année prochaine. On s'est retrouvé avec Charlie à Ajaccio.
Comment tu te prépares psychologiquement à ça? Alors, est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse qui t'empêche de stresser? Parce que là, tu dis toi-même, tu viens de passer ton bac, c'est l'été, t'es tout jeune, t'as joué contre des joueurs de ton âge ou peut-être un an plus âgé que toi, et là, tu te retrouves face à des pros dans un des plus grands stades de France, si ce n'est d'Europe. Oui. Comment tu abordes ça psychologiquement? C'est incroyable comme histoire.
Écoute, moi, je fais ça naturellement. J'ai pas eu de pression. Les joueurs d'Ajaccio à l'époque, Boccato, Vanucci, tout ça, m'avait parlé, avait dit tu fais pas de soucis, joue comme tu sais. Il m'a mis en confiance. Et moi, personnellement, je n'étais pas anxieux. Donc, je suis rentré là-dedans, j'avais l'air de dire bah, écoute, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, tant pis. Mais c'est vrai que ça fait jouer sur un coup de dé, quoi. Ça fait jouer vraiment sur rien. Maintenant, les joueurs ont un profil de carrière, ils ont toute une formation qui fait que. On n'est pas surpris de les voir au plus haut niveau. Moi, j'arrivais de un entraînement par semaine à 6 entraînements par semaine et parfois à 8. Voilà, ça m'a un peu chamboulé. Et je me suis vite adapté.
Sans vouloir tomber dans le cliché, le football corse, c'est pas tout à fait le même que le football continental. Est-ce que le fait de rejoindre Ajaccio, ça t'a poser des questions, au moins tu t'es posé des questions sur l'acceptation corse de ton arrivée?
Alors, je n'ai eu aucun problème là-dessus. Ça a vraiment été 4 années, je suis resté 4 années, ça a été 4 années de bonheur. Hein. J'ai été très bien accepté par les Corses. Mais les Corses savent accepter les gens. Hein. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup de passion. Et si on est sérieux, c'est d'abord les services que je peux rendre à l'équipe. Et c'est vraiment bien, bien passé.
Est-ce que tu as utilisé ton nom de famille, Baratelli, pour faire un petit peu local?
Ah non, pas du tout. Non, parce qu'à chaque fois qu'on me demandait d'où je venais, parce que c'est vrai, beaucoup, comme je vois encore, me disaient vous êtes corse. Alors moi, mon grand-père est né en Italie, mon père est né à Nice, et moi, je suis né à Nice. Donc, on est sur le bassin méditerranéen, hein, on se ressemble tous.
Donc, tu arrives en Corse. Tu vas habiter où? Comment ça va se passer, le logement?
Ah ben, mon père est venu avec moi lors de la signature de mon contrat. Bon, c'était des petits contrats, hein. C'était rien de mirobolant. Et par contre, il avait exigé que je sois nourri et logé. Donc, j'ai été nourri et logé. J'étais dans un appartement avec deux autres joueurs, deux jeunes, Marc Michel et Tafanelli, deux joueurs corses. On était tous les trois dans un appartement. Donc, on était logés comme ça. Et comme l'appartement était à côté du stade, on s'entraînait, on était à 100 mètres du stade.
Est-ce que vous étiez surveillé par le club ou vous étiez relativement libre, les trois coqs en pâte
Non, on était très libre, très libre. Personne ne surveillait personne. Vous savez, Ajaccio, c'était à l'époque. Ça a bien changé depuis parce que j'y retourne évidemment. Mais à l'époque, c'était un gros village. Hein. C'était un club de port et tout, c'était magnifique. On savait plus ou moins ce que tout le monde faisait. Quoi.
Est-ce que, rétrospectivement, ces deux, trois années d'insouciance à Ajaccio où tu fais ta passion avec des camarades dans un lieu quand même, non pas paradisiaque, mais enfin quand même très, 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 très agréable. Est-ce que c'est pas une des plus belles périodes de ta vie?
Ah oui, incontestablement. Hein. Ouais, l'insouciance, on était trois célibataires. Vous savez, Ajaccio, c'est quand même une belle ville. Hein. Il y a la plage, il fait pratiquement beau toute l'année. Moi, je ne me rappelle pas avoir allumé le chauffage, moi, c'était paradisiaque pour moi.
Et alors, comment tu es arrivé à pas, je dirais, déraper? C'est-à-dire, vous êtes quand même trois jeunes, coin paradisiaque, la plage, les Corses sont sympas, ils aiment faire la fête. Tu arrives à rester sérieux?
Non, il n'y avait aucun problème. Moi, je savais que je devais préparer. Il fallait quand même que je prouve ce que je devais faire. Donc, si j'avais une chance de réussir en ce métier, la moindre des choses, c'est de se préparer le mieux possible. Pour moi, ces quatre années en Corse, ça a été des années de formation, si vous voulez. Et je me suis préparé vraiment le mieux possible. Ça, je veux dire que et là, j'étais à 100%.
Donc là, tu commences à vouloir véritablement devenir un professionnel. Tu as un plan de carrière particulier ou tu te laisses guider par les événements? C'est-à-dire, est-ce que tu dis, bah voilà, je vais rejoindre tel club à un moment donné ou tu restes concentré sur l'étape présente?
Pour moi, c'est, comment dirais-je, j'avais pas de plan de carrière. Pour moi, les années en Corse, c'était une année de formation. J'ai eu la chance de tout de suite être titulaire. J'ai été remplaçant pendant 3-4 mois. Et puis après, on m'a donné ma chance et j'ai été titulaire jusqu'au bout, jusqu'à ce que je quitte la Ajaccio pour aller à l'OGC Nice. Voilà. Et pour moi, ça a été une formation sur le tas, avec évidemment beaucoup d'entraînement, parce que je m'entraînais dur.
Vous êtes en quelle division à ce moment-là?
En première division. On jouait en première division. On est resté 4 ans en première division. Hein. Quand je suis arrivé, l'équipe d'Ajaccio venait de monter en première division. Et elle est restée les 4 ans où j'y étais. Donc j'ai accumulé les matchs en première division, donc j'ai appris la première division. Mon premier match, ça a été à Bordeaux. J'ai pris 3 buts. J'ai dit, oulala, c'est mal parti.
Et tu te souviens ce qu'ils t'ont dit, tes coéquipiers, après le premier match où tu prends 3 buts? Parce que, est-ce que toi, tu étais mortifié ou est-ce que tu disais, bon, bah, c'est normal, c'est un premier match
Non, moi, j'étais décrit, quand même. Mais bon, non, personne ne m'a rien dit. Hein. Et on est allé jouer à Valenciennes, on a fait match nul, 0-0, ça a commencé comme ça.
Et est-ce que Nice était aussi en division 1 à cette période-là?
Oui, d'ailleurs j'ai joué, oui absolument, d'ailleurs j'ai joué à l'OGC Nice dans la saison, hein, et on a perdu 1-0, un but de Santos, je me rappelle.
Et ton père était pour qui à l'époque, quand tu étais dans les buts d'Ajaccio pour le match Nice-Ajaccio?
Je ne lui ai pas demandé. Non, je pense qu'il devait être très partagé parce que c'était un supporter acharné de l'OGC Nice. Après, je lui ai facilité la tâche puisque je suis allé à l'OGC Nice.
Voilà, exactement. Après, je me souviens d'une anecdote sur John Terry qui jouait à Chelsea dans le club ennemi de son père et de son oncle. Et il voyait de temps en temps son oncle et son père lui faire des signes obscènes dans les matchs contre West Ham. Je crois que c'était West Ham. Donc
il y a des photos qui circulent sur Internet.
Non, c'est bon. Ça, c'était pas comme ça.
Est-ce que donc pendant cette période-là de 4 ans d'Ajaccio, il y avait un club que tu détestais affronter dans tes premières années?
Je réfléchis, non. Totalement, non. Non. Là, il y avait des équipes où, quand on se déplaçait, c'était chaud. Hein. Alors, on jouait à Nîmes, on allait jouer à Bordeaux. Bordeaux, c'était chaud aussi. Lyon aussi, c'était chaud.
Alors, ce qui est marrant, Dominique, c'est que quand on pose la question à tout autre joueur, il répond toujours que Nîmes est souvent dans cette époque, souvent cité. Mais la Corse est aussi citée.
Ouais, Ajaccio ou Bastia, généralement, ça revient. C'est un peu toujours au hit parade des places dans lesquelles c'était toujours aussi un peu chaud.
Oui. Ah, ben, chez nous, c'était. Quand on jouait sur le petit stade, sur le stade actuel, mais le stade Jean-Louis, puis on avait une belle attaque. Hein, on avait Sansonetti, Martialis, Bako Touré, le père de Jové. On avait vraiment une belle équipe devant. Hein, on avait des attaquants d'un grand niveau. Hein. D'ailleurs, Sansonetti a été 2 années de suite meilleur buteur de première division. Hein.
Tu as 18-19 ans quand tu débutes, quand tu es titulaire en première division.
Non, j'avais un peu plus. J'ai commencé j'avais 20 ans. Oui, 20 ans, on va arrondir. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à Ajaccio.
Donc 20 ans, j'imagine qu'à l'époque, c'était quand même pas commun d'avoir des gardiens aussi jeunes titulaires en première division.
C'est ma chance. C'est ma chance. J'ai vu des tas de joueurs qui étaient en équipe de France junior et qui ne se sont pas imposés dans leur club. Moi, je suis arrivé et j'ai eu la chance de m'imposer.
Et est-ce que tu regardes d'autres gardiens? Comme tu es encore assez jeune et tu le dis toi-même, tu n'as pas une expérience, en tout cas d'entraînement, qui est extraordinaire, en tout cas en termes d'années. Est-ce qu'il y a des gardiens dont tu t'inspires? Comment tu fais pour acquérir de l'expérience de manière un peu accélérée?
Ah ben moi, je regarde beaucoup les autres gardiens. Hein. Moi, j'avais une attention vraiment aiguë sur Marcel Aubourg et Georges Carly. Marcel Aubourg, que j'avais vu jouer à l'OGC Nice avant que Bial. Donc, pour moi, c'était deux exemples à suivre. Quoi. Georges était un garçon très sérieux. Je me suis vraiment calqué sur lui.
À cette époque-là, est-ce que tu pourrais nous décrire un tout petit peu quelles sont les conditions logistiques d'un gardien? C'est-à-dire notamment, quel est votre matériel? Parce que je suis toujours un peu surpris. Je comprends que c'est une époque où le matériel du gardien de but dans les années fin 70, c'est pas le même matériel que maintenant.
Ah ben non, on n'avait pas de gants. Les gants qu'on avait, donc quand on jouait en plein jour, donc c'était moins grave parce que sans gants, quand le ballon était sec, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que quand c'était glissant, alors on avait toujours des gants en laine qu'on essayait de piocher à droite et à gauche, vrais gants de gardien de but. J'en ai eu qu'à partir du moment où je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Hein. Faut pas croire, hein. Le matériel était vraiment catastrophique. Et la première année à Ajaccio, j'avais pas de maillot de gardien. Je me suis acheté un maillot de gardien pour commencer. Donc voilà, c'est vraiment la préhistoire. Hein.
Alors, tu dis que tu as acheté un maillot gardien, c'est-à-dire que ça existait quand même ou tu t'es fait toi-même une espèce de maillot capitonné
Non, il n'y avait pas de maillot capitonné, non. J'avais trouvé dans un magasin de sport un maillot de gardien de but lambda, quoi. Et j'avais pris celui-là. Je l'ai gardé 2 ans.
J'imagine que Ajaccio étant un petit club, c'est toi qui t'occupais de faire ta lessive, d'être certain que tu avais ton maillot, oui. Etc.
Non, mais ça, je l'ai fait jusqu'au Paris Saint-Germain. Hein. Au Paris Saint-Germain, c'était pareil. Hein. On ramenait nos affaires à la maison et on les nettoyait, on s'occupait des chaussures. Il n'y a que le maillot qu'on ne s'occupait pas. Mais le reste, les chaussures, tout ça, on s'occupait nous. Hein. Les maillots, les chaussettes et les shorts. Hein.
Dominique, il y a prescription maintenant, mais est-ce que dans certains matchs, tu remettais tes chaussettes et tes maillots non lavés?
Non, je crois pas. Je crois pas. À l'entraînement, oui, mais pas en match. Je ne me rappelle plus avoir fait ça. Non, moi, dans le match, il fallait que je sois à l'aise. Déjà, c'était compliqué. Les terrains étaient catastrophiques.
Est-ce que tu avais un petit côté superstitieux? On sait qu'il y a des joueurs qui mettent la chaussette droite avant la chaussette gauche ou qui ont toujours le vieux slip qu'ils ont depuis leurs 15 ans. Est-ce que toi, tu avais des rites un peu superstitieux comme ça?
Oui, je crois que la deuxième superstition que tu as dit, c'était bien, la mienne, c'était mon, ma superstition à moi aussi. Je gardais toujours le même slip. Je le lavais, hein.
Oui, non, bien sûr.
Quant à l'habillement, on se prépare toujours de la même manière. Donc, je ne sais pas si j'ai mis la chaussette droite avant la chaussette gauche, mais bon. C'est un rythme. Quand on a fait comme ça, j'ai fait presque 600 matchs en première division. C'est une espèce de routine qu'on ne se rend même plus compte de quel sens on s'habille.
Est-ce que pour toi, les défenseurs qui étaient devant toi quand tu étais à Ajaccio comptaient énormément? C'est-à-dire, est-ce que tu savais que tu allais passer une bonne soirée ou une mauvaise soirée en fonction des défenseurs centraux que tu avais? Et est-ce que de temps en temps, tu influençais l'entraîneur pour essayer d'avoir les gens avec lesquels tu étais le plus à l'aise?
Non, j'ai pas eu ce cas-là, non. D'abord, j'avais une défense qui était toujours pratiquement la même. Lamichi à droite, Boicato stopper, Denis libero et à gauche Moïse. On avait pratiquement sur la même défense. Donc on avait vraiment, et puis à cette époque-là, les effectifs étaient très restreints. Donc il y avait un seul remplaçant sur le banc de touche. On tournait pratiquement toujours avec la même équipe. Hein.
Tu disais il y a quelques minutes que au début c'était un peu compliqué pour te faire respecter dans la surface par les joueurs adverses. Là, tu as 20 ans, tu es en première division, tu joues contre des joueurs roués qui ont de l'expérience, qui à une époque en plus où les arbitres étaient quand même relativement complaisants, on va dire. Comment tu te faisais respecter avec ton jeune âge?
Oui, ça a été difficile au début, hein, mais c'est vrai que devant moi, j'avais des yeux briscards. Hein. Donc, des joueurs qui avaient la trentaine et tout, donc, ils m'ont protégé, ils m'ont toujours protégé. Et moi, je me suis adapté. Il fallait que je m'adapte. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je savais que quand j'allais jouer contre un tel, il allait me charger sur les corners. À l'époque, vous avez le droit de toucher le gardien de but, ce qui n'arrive plus maintenant. Dès que vous touchez le gardien de but, c'est bien faute. Mais là, à l'époque, ils avaient le droit de vous charger. Moi, je me rappelle le football anglais, le gardien, il allait souvent au fond du filet, des fois. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas bien protégés, les gardiens. Et donc, il a fallu s'adapter.
Jean-Luc Ettori nous disait qu'à son époque, il fallait être un peu kamikaze pour être gardien de foot, notamment quand on a un gabarit plutôt petit. Est-ce que c'était ton cas?
Oui, absolument. Oui. Là, il a raison. Il fallait y aller dans les jambes, il fallait se protéger, il fallait mettre le genou, il fallait mettre le pied, il fallait, et là aussi, se faire respecter, quoi. Mais c'est vrai qu'on disait toujours que le gardien, c'était le fou dans l'équipe.
Exactement, c'était la question que j'allais poser. Et c'est marrant parce que l'impression que tu donnes, c'est quelqu'un de très réfléchi, de très posé. Et pourtant, pour jouer gardien, à cette époque, j'ai l'impression qu'il faut être un peu fou. Donc, est-ce que tu étais un peu comme un acteur de théâtre? C'est-à-dire que quand tu arrivais sur le terrain, tu mettais ta cape de lumière et tu changeais complètement ta personnalité?
Je ne sais pas. Franchement, je n'en suis pas confiant. J'en étais pas confiant. Bon, je rentrais sur le terrain très concentré. J'ai toujours été très concentré. Et après, le coup de sifflet arrive, le match démarre. On ne fait plus le ballon des yeux. Et voilà, le match se joue.
Quand tu parlais d'être concentré, tu avais dit dans une interview que quand tu faisais un face-à-face avec un joueur, tu étais concentré uniquement sur le ballon et que tu ne voyais pas qui était le joueur.
Oui, c'est vrai. Ouais. Par exemple, les pénaltys contre Tours, je suis incapable de te dire qui a signé à tirer.
Donc, c'était uniquement à l'instinct.
Moi, je me concentrais sur le pied. Sur le pied. Oui, c'est sur le pied. En fonction du pied, je savais de quel côté il fallait que je parte. Mais ça se jouait à une dixième de seconde. Hein. Je crois que les joueurs sont plus forts maintenant. Ils arrivent à changer au dernier moment. Ce n'est pas tout à fait le cas à cette époque-là.
Et je comprends aussi que le ballon est un peu différent aussi entre les différentes étapes, les époques. Et donc, le côté flottant des ballons actuels permet d'être…
Oui, les ballons sont beaucoup plus légers. D'ailleurs, quand on jouait contre des équipes anglaises, ils avaient déjà ces ballons-là. Et il fallait que la semaine qui précède le match, on s'entraînait avec des ballons comme ça. Et c'est vrai qu'ils étaient plus légers et ils avaient des trajectoires des fois surprenantes. Alors que les ballons qu'on avait en championnat, c'était pour peu qu'il pleuve, ils finissaient par peser une tonne. Hein. Donc, c'était pas agréable.
Alors, pour les pénaltys, pour faire une petite digression, Quand tu vois la finale de la Coupe du Monde, toi qui étais le spécialiste français des pénaltys, qui reste encore, je pense, au panthéon des pénaltys, est-ce que tu penses que tu aurais pu en arrêter un ? Deuxième question, est-ce que quand tu vois une séance de pénalty, tu as toujours cette... tu essayes de deviner où il va tirer avant que le tireur tire le pénalty ?
Oui, c'est vrai que ça m'amuse des fois de le faire, mais j'ai un handicap, c'est que je regarde les matchs à la télé. Et à la télé, on n'est pas face au tireur. On est sur le côté. Donc, c'est très difficile de pouvoir porter un jugement quand on n'est pas en face du tireur. Je sais que je m'amuse des fois à dire qu'elle va tirer à gauche, et des fois, il tire à droite. J'avais un truc, sur un pied droit, quand on tirait du pied droit, je partais à droite. Je disais droite du gardien. Quand on tirait du pied gauche, je disais à gauche du gardien. Et 3 fois sur 4, c'était vrai. Après, il suffisait que je parte au bon moment, je fasse le bon geste pour l'arrêter. Mais c'était déjà 50%, je savais à peu près où il allait tirer.
Est-ce que c'était lié à un entraînement particulier avant match ou c'était dans les matchs?
Non, pas du tout, pas du tout. J'ai appris ça sur le tas. Non, c'est pas vraiment particulier. Non.
Et est-ce que maintenant tu serais capable d'arrêter un pénalty?
Je ne sais pas, parce que ça va beaucoup plus vite déjà. Je pense que les joueurs qui tirent là maintenant, ils sont meilleurs. Je ne peux pas vous le dire. Non, je ne peux pas te le dire.
Donc, tu passes 4 ans à Ajaccio et notamment, ça t'ouvre aussi les portes de la sélection Espoir, hein, si je me trompe.
Espoir, oui, absolument. Avec M. Guérin, Henri Guérin, qui était l'entraîneur des Espoirs. Je pense que j'ai presque battu un record dans les Espoirs. J'ai eu 21 sélections en Espoir, alors que quand j'ai eu plus de 23 ans, ils ont continué à me prendre parce qu'ils avaient droit à 2 joueurs de plus de 23 ans. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de matchs en équipe de France Espoir.
Et à quel moment tu penses à l'équipe de France ? J'imagine que tu continues à être titulaire en première division pendant 4 ans, tu es encore tout jeune. Est-ce que tu... Alors, tu as effectivement les monstres sacrés, Carnus, Marcel Aubourg, etc. Est-ce que tu te vois les détrôner ? Est-ce que ça te motive à l'entraînement ?
Dans la période d'Ajaccio, non. Moi, pour moi, quand j'étais à Ajaccio, j'étais vraiment gardien de l'équipe de France Espoir. Je continuais à travailler, à me former. Quand je suis passé à l'OGC Nice, là, j'ai changé un peu de statut à l'OGC Nice. Le club avait plus d'ambition et tout. Et c'est vrai qu'on avait une superbe équipe, donc on était pas mal à partir en équipe de France. Et c'est comme ça que moi, j'ai raccroché l'équipe de France à l'époque où j'étais à l'OGC Nice.
Et donc, justement, tu décides de partir à l'OGC Nice. Comment s'est fait ce transfert ?
J'avais signé un contrat de 4 ans. C'est-à-dire, j'avais signé, d'abord, les 2 premières années, j'étais amateur. Et au bout de 2 ans, il y a eu le contrat à temps, parce qu'avant, il n'y avait pas le contrat à temps, c'était le contrat des terminés jusqu'à 35 ans. Donc, j'ai fait donc 2 premières années amateur, puis j'ai signé un contrat de 4 ans. Les 2 années suivantes, j'étais en tant que professionnel. Et au bout de ces 2 années, Antoine Federici, qui était le dirigeant de Ajaccio, m'a dit « on a une offre pour toi ». Donc j'appartenais à Ajaccio et donc ils m'ont demandé à me transférer. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Ajaccio. On n'avait pas trop le choix à cette époque-là. Hein. On pouvait pas... Bon, j'aurais pu dire non, je veux rester. Hein. Enfin bon, je retournais à Ajaccio, c'était pour moi quelque chose d'important. Donc, j'y suis allé.
Ça s'est d'abord décidé, en fait, entre Ajaccio et l'OGC Nice, ton transfert.
Ah, bien sûr, puisqu'on était, j'étais sous contrat. Donc, sous contrat, moi, je n'avais pas à bouger. Quoi. J'avais eu une touche avec Marseille, avec le président Leclerc. Et c'est finalement Georges Carnu qui a été. Et moi, donc, je suis allé à l'OGC Nice.
Tu négocies ton contrat à ce moment-là ?
À ce moment-là, une fois que je suis libre, je vais à Nice et je discute mon contrat avec le président. Et à l'époque, ce n'était pas extraordinaire. Hein.
Non, il t'a pas d'agent, voilà, j'imagine.
Ça n'existait pas, les agents. Les agents, c'est en 78. Avec, non, même pas, en 80, 82.
Et alors, quels sont tes points de référence pour savoir quelle est ta valeur ? Sachant que tu es international espoir, tu vas bientôt être en équipe de France.
Non, mais entre joueurs, comme ça, on discute, on connaît les niveaux de salaire, on connaît à Marseille, qui a fait Étienne. Donc, on s'évalue comme ça. Et moi, j'avais signé donc un contrat de 5 ans avec le tennis, et avec des clauses, si j'étais en équipe de France, si je faisais tant de matchs là, bon, là, on rajoute des paramètres comme ça.
Et tu reviens à Nice à ce moment-là. L'idée, c'est de revenir chez papa-maman ou c'est d'avoir un peu ton indépendance?
Non, là, j'avais 24 ans. J'avais été indépendant pendant 4 ans. J'avais pas recommencé. Non, j'ai pris un appartement. Je me suis installé, pas très loin de chez eux d'ailleurs, mais je me suis installé à Nice.
Est-ce que tu as négocié une clause dans ton contrat comme quoi tu as arrêté de faire la lessive et qu'on te fournissait des maillots?
Ah non. Nous, on continue. À l'OGC 10, on avait un truc qui était pas mal. On avait un employé qui avait les affaires. On avait réussi à négocier avec lui pour qu'il lave les affaires.
Parce que j'avais demandé si tu amenais ta lessive chez tes parents, justement.
Ah non, mais si chez mes parents, non.
Ton retour à l'époque, est-ce que c'est un peu le retour de l'enfant prodigue?
Je ne sais pas. Entre le Canigal et le Géphénix, il y a toujours eu un peu la guerre. Hein. Donc, j'avais quitté le Canigal, je reviens au Géphénix. Donc, en plus, à l'époque, il y avait pas mal de dirigeants du Canigal qui étaient passés à le Géphénix. Donc, non, il n'y a pas eu de transport. Moi, j'étais content de revenir chez moi, d'aller jouer dans le stade du Ré que j'avais fréquenté en tant que spectateur pendant des années. Et me retrouver là, au milieu des gars à qui je faisais signer des autographes 5 ans auparavant. Ça, hein.
Et justement, c'était qui un peu la star que tu étais à Nice, que tu étais contente de retrouver en tant que collègue plutôt qu'en tant que fan?
Oui, absolument. Hein. On était pas mal, on était 5 nouveaux joueurs hein, à venir. Hein. Il y avait Hervé Grévény, Jean-Noël Luc, je m'en ai oublié. Jean-François Louis, Camérini, et Charlie Loubet, qui revenait de Marseille. On était 5 joueurs à arriver, et dedans, il y avait 3 internationaux quand même.
Alors justement, tu rejoins une équipe, et c'est sans faire offense à Ajaccio, tu reviens dans une équipe plus compétitive. Est-ce que tu as un objectif de trophée?
Je vais pour progresser, hein. Je vais pour essayer d'arracher quelque chose. Hein. Pour essayer d'être parce que c'est vrai qu'à Ajaccio, sauf la dernière année où on a fini 6e, on était toujours soit dans le ventre mou, soit en bas à jouer la défense. Donc c'est vrai que là, j'étais dans un club où déjà on s'est fixé l'objectif d'être champion. C'était une autre approche, une autre ambition.
Est-ce que c'est un mini-choc pour toi ou c'est une progression normale? Est-ce que leur méthode d'entraînement était différente? Est-ce que l'entraînement était plus intense? Est-ce qu'il y avait une exigence qui était plus élevée?
Non, c'était pas l'entraînement était plus. Pareil, on a eu un entraîneur comme Jean Félin qui a un acharné du jeu collectif et offensif. C'est vrai que c'était beaucoup plus basé sur les jeux, les tirs au but, des trucs comme ça. Mais le fond de l'entraînement était grosso modo le même. J'avais eu à Ajaccio Alberto Muro comme entraîneur et Mouillon à la fin. C'était des entraîneurs qui avaient bourlingué déjà.
Après une année à l'OGC Nice, ça y est, tu es présélectionné en équipe de France. Je crois que ta première sélection, c'est à Bucarest contre la Roumanie, où tu ne joues pas. Et 2 mois plus tard, ta première sélection, c'est contre une sélection CONCACAF en juin 72 à Salvador de Bahia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu apprends ta sélection?
À l'époque, le sélectionneur, c'était Georges Boulogne, qui était vraiment à l'avant-garde de tout, hein. Et au niveau de l'aide des préparations des joueurs, et au niveau de la vision future du football. Hein. Et donc, Georges Boulogne est venu me voir, il m'a dit, bon, là, on fait une tournée, je vais en profiter pour te faire jouer. Il m'a fait jouer les 2 premiers matchs, et le 3e match, c'est Georges Carny qui l'a joué.
T'as joué en espoir, donc c'est peut-être pas un gros choc, mais comment tu te sens au moment où tu entends les hymnes, c'est ton premier match international? Est-ce que c'est un rêve pour toi ou est-ce que c'est où tu vois vraiment ça juste comme un palier de plus?
Ça faisait 6 ans que j'avais démarré ma carrière. C'est vrai que c'était un grand moment de joie. Hein. Et bon, mais ça, chez moi, ça s'est fait tellement naturellement que j'ai pas plus été impressionné que ça, quoi. Je jouais avec des grands joueurs, des joueurs que j'allais voir jouer, moi, à l'USG.
Le rôle de gardien de but est quand même assez spécifique, et notamment sur le fait que il y a qu'un seul gardien but par équipe. Comment tu gérais le côté compétition entre gardiens, mais en même temps solidarité?
Alors à cette époque-là, il y avait un gardien titulaire et un gardien remplaçant. Moi, j'étais le titulaire. C'est pas comme en place. C'est-à-dire que quand on faisait des matchs amicaux, il fallait que je démarre. Bon, après, je ne faisais pas la seconde mi-temps, mais il fallait. Et en championnat, c'était pas. Allez, j'étais le titulaire, c'était moi. Point barre. Après, avec les autres, on s'entraînait ensemble, on était copains, on était trucs, mais les choses étaient très tranchées. Et d'ailleurs, tous les clubs de première division faisaient pareil. Hein. C'est très rare qu'il y ait une alternance. Quand je vois maintenant que les joueurs, les gardiens de but, en passant, ils font la Coupe de France, et que les titulaires ne la font pas, je trouve ça, moi, personnellement, pas normal.
Et tu penses que cette alternance, c'était la question qu'on avait posée à Georges Carnus, il n'y a pas longtemps, et qui nous disait que cette espèce d'instabilité qu'il y avait en équipe de France pendant les années 70 avait peut-être pas aidé l'équilibre de l'équipe, puisqu'il y avait quand même toujours beaucoup de changements. C'était alternance Carnus, Marcel Aubourg. Ensuite, toi, tu es rentré dans la danse. Il y avait ensuite Jean-Paul Bertrand Demann.
Après, il y a eu Dédéré. Oui, c'est vrai que, je sais pas, à l'époque, les sélectionneurs, ils n'avaient pas tranché. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu plus entre deux chefs, si je puis dire. Hein. Ils ne savaient pas lequel serait le plus titulaire. Alors que maintenant, on prend, on lui dit, c'est le numéro un, à moins qu'il se rate deux, trois matchs, et il sort. Il y avait une reconnaissance du titulaire. Il n'y avait pas auparavant. Auparavant, j'ai été 9 ans en équipe de France, j'ai 21 sélections. Donc, j'étais souvent remplaçant. Donc, on a alterné. J'ai alterné avec Bertrand Demann, j'ai alterné avec Dédéré, j'ai alterné avec René Charrier, qui était le gardien de Marseille. Donc, on a alterné. Mais il n'y avait pas vraiment un gardien titulaire.
C'est étonnant parce qu'effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y avait une hiérarchie à ton époque en club qui était ultra claire. Il y avait un titulaire et un remplaçant, et le remplaçant, il allait souvent en tribune parce que, comme tu le disais, il n'y avait qu'un seul remplaçant possible de rentrer, donc souvent le remplaçant gardien, il allait en tribune.
Ah oui, en championnat, c'est comme ça, oui.
Et en sélection française, c'était au contraire une valse successive, là où maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus une rotation et une compétition en club sur le poste de gardien, on l'a vu quelques temps à Paris, là où en sélection, en revanche, le sélectionneur essaye d'installer depuis quelques temps un titulaire pour éviter ces questions.
Non. C'était comme ça. Il faut dire aussi que les résultats étaient moins probants à cette époque-là. D'ailleurs, on participait pratiquement pas à des Coupes du Monde. Hein. L'année où j'aurais pu faire une Coupe du Monde, on a été éliminé par l'URSS, but de blocking. Et c'était ma troisième sélection à moi. Donc, c'est vrai que comme on n'était pas, comment dirais-je, très performant, on n'arrivait pas à décrocher l'équipe stable. Il a fallu attendre l'Argentine pour avoir une équipe stable.
Mais alors justement, est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il y ait autant d'instabilité, ça n'a pas aidé? Est-ce que c'est une cause ou un effet, justement, cette instabilité au poste de gardien?
Là, on ne peut pas savoir si c'était la cause ou l'effet. Peut-être que c'était ça, peut-être que c'était justement parce qu'on était trop égaux, on n'était pas, il y avait un qui prenait le pas sur l'autre. C'est pour ça que les sélectionnaires étaient très ambitieux.
Alors maintenant, il y a prescription, Dominique, et tu peux nous avouer qui était le meilleur gardien de cette époque. Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était Jean-Paul?
Il y avait Dominique Grandfille, mais je pense qu'on était à peu près tous les deux. Tous, à peu près, moi je pense.
Mais ce qui est incroyable, c'est que vous aviez tous des qualités tellement différentes.
Oui, Bertrand, c'était la taille, les balles aériennes, il se couchait très vite hein, sur les balles, hein. Il était vif aussi à la terre, mais Dropsy était un peu comme moi, Dropsy, on avait un peu le même physique. Et on ne peut pas... ne veux pas savoir. Moi, je ne veux pas savoir quelle était la cause de ça.
D'accord. Et si tu devais donner les points faibles de chacun de tes concurrents à l'époque ?
Je ne livrerai pas à ça. Non. D'abord parce que c'est trop tard. C'est trop.
C'est tout à ton honneur, même s'il y a prescription, comme dit Guillaume.
Trop vieux, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai décroché depuis un bon moment. Et le football, c'est derrière moi. Hein.
Oui, mais c'est derrière vous, mais tout le monde se souvient de vous, donc Dominique.
Oui, d'accord, mais bon, je suis passé à autre chose. Hein.
Est-ce qu'il y a un match mémorable de l'équipe de France pour toi, Dominique ?
Ah, moi, c'est l'Italie. L'Italie au Parc des Princes. C'est 40 ans que la France n'avait pas battu l'Italie. Hein. On joue au Parc des Princes. Moi, j'étais au Paris Saint-Germain à l'époque. On joue au Parc des Princes, on gagne 2-0. Pour moi, ça a été un moment important. Moi qui, en plus, qui suis d'origine italienne, du côté de Nice, ils sont pro-italiens beaucoup. Hein. Et donc, ça me faisait plaisir de ce match. En plus, ça a été un super match.
C'était en février 82, il me semble.
Oui, c'était en février, juste avant la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, ils ont été champions du monde.
Exact. Exactement.
Ouais. Trois mois après, ils ont été champions du monde.
Et donc, c'était Dino Zoff dans les buts. Alors, je sais que vous avez partagé l'hôtel avec lui pendant la Coupe du Monde 78. J'espère qu'on pourra en parler un petit peu. C'était ton idole ?
Oui, oui. Bon, c'est vrai que c'était la longévité, le calme, la présence, même s'il en a un peu rajouté dans l'air de conserver le ballon en Coupe du Monde. Parce que la règle était mal foutue. Hein. Alors, la Coupe du Monde 82, et pour moi, c'est... Il y a Buffon maintenant dans la Ligue. Ils sont des monstres.
C'est la fin de la première partie de cet épisode du podcast des légendes consacré à Dominique Baratelli. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie passionnante. On parlera bien entendu, vous vous en doutez, de la Coupe du Monde 1982 et l'inexplicable non-titularisation de Baratelli dans les buts. Un mystère, pourquoi n'a-t-il pas joué ? On en parle la semaine prochaine. Dominique nous donnera ses hypothèses. On revisitera avec lui cette compétition un peu étrange. Et on parlera bien entendu de ses exploits au Paris Saint-Germain, notamment en Coupe de France. Voilà, un épisode surtout à ne pas manquer. On se retrouve la semaine prochaine.